c'est la bande originale avec Leïla Kadobou-Dadi, Morgane Cadignan, Tom Villain, Cyril Rossignol, Tanguy Passureau, Daniel Morin et tout à l'heure notre invité Dominique Faoudja. On va parler avec Dominique de son livre bouleversant qui s'appelle « Elle ne m'a jamais quitté ». C'est un récit, comme c'est précisé, c'est loin d'être un roman, malheureusement, j'ai envie de dire. On aimerait qu'il y ait plus de fiction, mais non, c'est que la réalité de la vie de Dominique. On en parle dans quelques instants avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire autour du livre de quelqu'un que l'on aime et qui nous raconte qu'il a une maladie qui est toujours avec lui? Qu'est-ce qu'on peut faire comme blind test? Comment on va s'amuser là-dessus?
Bah vas-y,
j'espère que t'as été créatif.
Ok, alors j'ai trouvé ça. Je veux, attention, votre prénom et l'interprète.
Et peut-être quand on donne son nom, on met pas 12 secondes.
Leïla
Morgane.
Oh non, elle était
pas.
Elle était relou avec ça.
Le temps que ça vienne, Brel.
Non.
Ne me quitte pas, quoi.
Oh. Moi.
Et du coup, qui est le.
Je t'offrirai.
Bah. C'est Leïla. Je pense que c'est la dame.
Pluie, venue de pays.
Tais-toi. Tais-toi.
Je sauverai la terre jusqu'après ma mort.
C'est le matin.
Pour couvrir ton corps.
Le titre de son livre, Elle ne m'a jamais quitté, donc Brel, ne me quitte pas, bien joué.
Ne me quitte pas.
Morgan.
Tom.
C'est
Non.
Ça va, Nina Simone.
Non, alors tu vois.
Je t'en fume.
Tu vois, ça arrive. En fait, et c'est pas de la triche.
C'est toutes les reprises.
Ça se voit tout le temps.
Toutes les reprises de.
Je sais pas.
Il ne pleut pas.
Il ne pleut pas.
Je sais pas. Je sais pas qui a fait ce blind test. C'est qui chante.
Dalida.
Je me quittais pas.
Leïla. Morgane,
Kuban,
je sais pas quoi.
César
Yévora. Tanguy.
Non.
Tanguy. Yuri Buenaventura.
Ah, Buenaventura.
Moi, je t'offrirai. Aïe, c'est pas grave.
La prochaine, c'est Danny Briand, non?
Non.
Mais c'est Danny Briand.
Yuri Buenaventura.
Ah, ça a plus le même sens, quand même. C'est Tanguy, là.
Ouais.
C'est bien Danny Briand.
Un point pour Leïla, un point pour Tanguy, un point pour Morgane qui chante.
Mec. Quitte pas.
Tanguy.
Tom.
Johnny.
Jojo.
Moi je t'offrirai des perles de pluie.
On est plus à Cuba. Venu
de pays.
5 kilos.
C'est rugueux.
Mais à mon avis, c'est vieux, hein. C'est pas si récent que ça à la voix.
Ça a pas, ça a
c'est
pas
2020.
C'était avant,
non,
les,
si.
Avant les cordes vocales.
C'est à plus d'un an. Hein.
C'est quoi?
Donc, déjà, c'est avant 2017.
Qui chante ça?
Oula Morgane, Céline Dion.
Oui.
Oula Morgane.
Oula Morgane.
Des perles de pluie.
Oh la Morgane,
la vache. Ça te va bien, la Morgane.
Je l'aime, mais là, quoi.
Mais qui n'a pas massacré cette chanson?
Une sacrée paire aussi.
Bah, pas Céline Dion.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut. Il faut oser dire, je vais chanter, ne me quitte pas. C'est-à-dire que tellement il y a eu de versions dingues, j'ai arrivé derrière tout le monde. Qui chante ça?
C'est du live.
Apparemment, vous n'avez pas retrouvé.
Serge Lama.
Ne me quitte pas.
Tom.
Leïla.
Tom.
Il faut t'oublier.
Mais non.
Non.
Daniel.
Daniel.
Tanguy. Capéo.
Non.
Ah, j'allais dire
ah,
ça.
Ah, qui s'en fout.
Claudio Capéo.
Non.
Qui s'en fout. Qu'est-ce qu'il parle de ça?
Kenji. Chut, écoutez.
Non, Valentin Doux. C'est un provençal.
Ah, c'est Alexis Julio Iglesias.
Non.
Enrique.
Ricky Martin.
Non.
On est dans le bon racisme ordinaire.
Attends.
Pierre Belmar.
Non.
Ne me quitte pas.
Non.
Ne me quitte pas.
Non.
J'ai pas vu.
Non. Ouais.
Lio.
Ah non. Amanda Lear.
Non.
Des plouis.
De Péou.
Daniel.
Sting.
C'est Sting.
Oui.
Mais d'où il sort cet accent espagnol, Sting?
Il est espagnol, Sting. C'est un Andalou.
Tu sais lire de loin, Daniel?
Il s'appelle Sting.
Je ne vois rien.
Ça va mieux, cette attitude massive, là.
Après ce bicycle.
C'est dur à dire.
Enfin, un point pour Daniel.
Ah,
il était temps. Attention, tout se joue maintenant. Ouais, je suis sérieux. Tout se joue maintenant. C'est le Super Banco. Il rapporte 3 points. Pour l'instant, Morgane a 2 points. Leïla 1, Daniel 1, Tanguy 1, Tom 1. Qui chante?
Ne me quitte pas, il faut oublier.
Daniel.
Tu penses oublier.
Macha Meryl.
Qui s'enfuit déjà.
Non.
Oublier le temps
Leïla, Mélodie Gardot.
Non.
Daniel, Angelique Kidjo.
Non.
Charlotte Tanguing.
Didi Bridgewater.
Américaine.
Céla Sou. Non.
Grace Jones.
Non.
Chantal Lobby.
Non. Américaine.
Barbara Streisand.
Non.
Ah, je sais pas.
Jeune, vieille, morte.
Bruno Retailleau.
Contemporaine.
Oui.
Ne me quitte pas.
Lady Gaga. Ne me
quitte pas. Attends. Moi,
je t'offrirai. Oh là là.
Oh yeah.
C'est China Moses en fait.
Non.
Oui, bah je sais.
Imani.
Non. Elle est souvent en retard sur scène.
Lauren Hill.
Oui.
Moi, c'est pas des retards. C'est des fuseaux horaires.
Elle parle bien français.
Elle assure.
Ah, c'est mieux que Sting. Si.
Ah ouais.
Non, tu touches pas à Sting. Tu ne touches pas à Sting.
Bah non, c'était pas prévu.
Tu touches plus à Sting. Tu ne touches pas à Sting. Attends, il est où, il est là. Je t'offrirai. Sting, c'est la classe.
C'est un peu surévalué. Je sais pas si Jacques Brel en aurait validé. Oui.
On a enregistré un taratata avec Sting.
Il a
70 ans. Je vous souhaite tous d'être. Je vous souhaite d'être comme lui à 70 ans. Il a une super forme et un super album en plus. Mais cela signe.
Pareil à 70 ans.
La victoire de Leïla.
Mais oui, merci.
Et merci d'accueillir Dominique Farrugia.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Bienvenue.
Merci,
Dominique.
Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir de t'accueillir parce que je vais pas réussir au vouvoiement, je suis désolé.
Oui, ça est difficile.
Pour ce livre chez Robert Laffont, un livre courageux, j'ai envie de dire, parce que cette maladie que tu traînes, dont on est au courant, mais dont on ne te parle pas, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, certaines personnes savaient, en tout cas, mais personne ne te parlait de cette maladie.
Oui, la sclérose en plaques. Caché. Ouais. Je l'ai longtemps caché, j'en ai parlé qu'à mes proches, les nuls, certains amis, mes parents, et puis à un moment j'en ai un peu plus parlé. Ce que j'ai essayé, c'est toujours d'apparaître comme en tant que moi-même et pas en tant que malade. Ça a été un grand combat dans ma vie. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens, André Rousselet, Pierre Lescure, Maxime Saada, Stéphane Courby, qui m'ont jamais pris pour un malade, qui m'ont pris pour un mec normal qui peut travailler. Et j'ai eu cette chance. Et ce que j'essaye de raconter dans ce bouquin, c'est pas ma vie, mon œuvre, ma sclérose en plaques,
c'est vrai que la formule ma vie, mon œuvre, ma sclérose.
Mais ouais, faut
c'est
savoir.
Un bon titre. Tu l'avais envisagé.
J'ai pensé aussi. Lisez-le, je monte mes couilles, mais je trouvais ça un peu racoleur, un poil.
Ouais, mais voilà. Je trouve assez efficace.
Ouais. Elle a besoin de parler. Elle a besoin de beaucoup parler. Ça va pas bien. Ça va pas fort. Ça va pas fort.
Ouais.
Ne le pousse pas.
Ne le pousse pas.
Pour être moins trivial, c'était important pour moi d'écrire ce livre pour parler d'une part du handicap et de la vie avec le handicap. Je me suis retrouvé il y a un peu plus de 3 ans cloué dans un fauteuil roulant. Je me suis fait les croisés et la cheville.
La cheville plusieurs fois,
mais c'est comme une blessure de footballeur, si ce n'est que moi, c'était en remettant le bas de mon pyjama.
Ouais.
Ce qui est absolument terrible. Je suis tombé dans un hôtel, les gens n'arrivaient pas à m'entendre, j'ai dû faire des tractions pour attraper mon téléphone.
Et le livre ouvre là-dessus. Ouais. La scène aux États-Unis, c'est-à-dire le côté producteur de cinéma, comme tu es, qui arrive à la Mecque du cinéma, Los Angeles, qui chute dans sa chambre avec le room service qui est de l'autre côté de la porte pour apporter le petit-déj, et tu as beau hurler, le mec n'entend pas, et t'appelles la réception plusieurs fois, parce qu'il y a eu plusieurs chutes qui se sont enchaînées, avec, et tu le dis d'ailleurs, zéro pudeur, et on n'a plus de pudeur quand on est malade, quand on tombe, on se dit pas, je suis à poil, qui va venir, qui va me voir, on s'en fout, on a juste besoin et l'urgence de ne plus être au sol, de ne pas avoir mal, de vite aller à l'hôpital, faire des scanners, des IRM, des radios qui coûtent une blinde aux États-Unis.
Oui.
La chance qu'on a en France,
une radio, une IRM, une visite chez le médecin, 15 000 dollars. Voilà.
C'est ça, c'est-à-dire que t'es pas riche, tu meurs.
Donc je suis vite rentré en France. Et puis, à partir de là, j'ai été cloué dans une chaise roulante. Donc, Et à partir de là, j'ai compris, parce que j'avais une autonomie de 10-15 mètres, et cette autonomie de 10-15 mètres, elle change ta vie, parce que tu peux faire des choses, tu peux te lever, tu peux regarder. Là, je suis cloué dans cette chaise roulante depuis, je me relève, j'ai perdu beaucoup de poids, je fais du sport, enfin, je fais tout un tas de choses pour continuer à me tenir en vie. Mais là, je me suis aperçu de plein de choses. Je me suis aperçu que ma ville n'est pas du tout faite pour mon handicap. Il y a peu de métro accessible, il y a même pas de métro.
Non. Alors voilà, c'est là où le livre est fort, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a la narration de ta vie, de ton parcours, les gens qui ont compté sur ce parcours, évidemment.
Partie de l'éducation aussi.
Le regard de la famille, tu as raison, ton épouse, tes enfants, tout ça, il y a un côté très intime, très vie privée, puis il y a un côté presque programme politique
Des propositions
mais avec de la il y a 12 millions de Français touchés par le handicap. 12 millions, c'est pas rien quand même. Tous les 5 ans on nous fait le coup de là on va s'occuper de vous.
On promet tout.
Voilà. Et puis à l'arrivée, il y a le Covid, on n'a pas pu. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui vous baladez par exemple dans un musée. Donc vous êtes debout et vous voyez un tableau normalement. Quand vous êtes assis, vous voyez la tête en haut, le tableau. Pourquoi ne pas essayer un jour? Mais ça, c'est totalement trivial de se dire, allez, je prends tel musée, je fais une journée pour les handicapés. C'est-à-dire que je descends de 60 cm le tableau sur la Cémèse, c'est rien. Et tout d'un coup, les gens vont mieux voir les tableaux. Les bus à Paris sont pratiquement tous équipés, et c'est formidable, si ce n'est que les trottoirs sont trop bas. Donc on a du mal à pénétrer dans le bus. Donc trouvons une solution.
D'autant plus que ça concerne aussi, je fais l'expérience en poussette, et quand on n'est pas en mesure de porter la poussette dans les escaliers avec la crainte de tomber, de se dire que ça peut être dangereux, finalement on finit par plus emprunter le métro parce qu'il y a peu de métros équipés, et puis il y a toujours une...
Donc ça concerne encore plus que les 12 millions
mais bien sûr. Surtout, et puis les personnes âgées.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Et puis les bars, tu dis les bars...
Les rampes,
pardon, aux toilettes, c'est rien, c'est juste une rampe à mettre à
un côté. Non, c'est rien à faire, mais on va pas s'en prendre aux cafetiers, ils ont déjà suffisamment de problèmes, mais le service public en tout cas devrait être accessible, et il l'est rarement, les postes sont rarement accessibles, etc.
Il y a cette phrase qui est, on paye des impôts, on attend quelque chose en retour.
Puis je me considère pas, j'ai beaucoup de chance, j'ai très bien gagné ma vie, mais ce que je voudrais c'est que on ait des villes qui soient inclusives, autant pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap, que pour les mamans qui poussent des poussettes.
Mais ça veut dire que tu as décidé d'écrire ce livre parce que les élections arrivaient et que tu te dis c'est le moment de jeter le pavé dans la mare, ou c'était un ras-le-bol personnel
C'est deux choses. C'est 30 ans avec ma sclérose en plaques.
Ouais.
Donc j'ai 59 ans, ça fait 30 ans que j'ai cette fichue maladie.
Tu lances même un défi aux candidats.
Moi j'adorerais que certains candidats, pas tous là en ce moment.
Ils sont pas tous candidats.
Non, ceux qui sont dans la course, oui. Ouais. Mais je voudrais bien qu'ils fassent un tour avec moi en chaise roulante. Bien sûr, venez avec moi.
Vive ma vie.
Venez avec moi.
Tu dis passer 12 heures sur un fauteuil et vous comprendrez.
Bien sûr. Et puis on peut faire des choses, on peut se dire, tiens, on prend tel quartier, on en fait un quartier pilote, on voit comment on peut y arriver, comment on peut accéder à une salle de spectacle. Il y a des salles de spectacle formidables qui se créent en France, formidables. Si ce n'est qu'on a oublié un handicapé. Ouais. Donc, c'est super. Maintenant, il y a des choses très bien faites. La Philharmonie, c'est fantastique. C'est plat, c'est...
Non, mais à notre humble niveau de la télévision, dès l'instant où il y a un décor est fabriqué, immédiatement, l'accès handicapé est pris en considération. C'est la loi, c'est une règle. La loi, tu sais, les gens après disent, on dira qu'il y avait un escalier, que là, il pouvait pas passer, ainsi de suite.
Mais ils préfèrent payer des amendes plutôt que de mettre les choses aux normes.
C'est moins cher payer des amendes.
C'est ça.
C'est les amendes qui sont pas assez élevées.
Non, et puis c'est un...
En tout cas, maintenant, la télévision, service public, le réflexe, je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais le réflexe, c'est pas une obligation, c'est un réflexe de dire accès handicapé, quoi qu'il arrive.
Mais ça devrait être un
réflexe.
C'est un réflexe que tout le monde devrait avoir. C'est Voilà, on vit dans des grandes villes où rien n'est accessible. C'est absolument terrible.
Alors ce livre est à la fois, nous fait passer par tous les états. On pleure, on rit, on s'énerve, on découvre aussi toute l'épopée. Parce que tu dis que tu as eu énormément de chance. C'est élégant de ta part d'appeler ça de la chance. Moi j'appelle ça du travail, de l'abnégation et de l'obstination, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'as rien lâché, où tu as fait des paris même personnels et financiers en vendant des biens personnels pour pouvoir produire des films parce que tu y croyais, qui t'a regretté ensuite d'avoir vendu la maison en disant ah,
pas avoir attendu de
j'aurais peut-être
mois,
pas
quoi.
Dû ouais j'aurais peut-être pas dû on va appeler Françoise Coquet tout ça est dans le livre et on passe par toutes ces émotions, par tous ces états, et ça porte à réfléchir sur finalement, encore une fois, sur soi, sur soit la chance que l'on a, soit c'est vrai de se dire, et on n'en est pas conscient quand on est valide, est-ce que tout est accessible, est-ce que tout est prêt à accueillir, et se dire même chez soi, si on a un pote qui du jour au lendemain arrive, ou si nous du jour au lendemain, parce que ça peut nous arriver à chacun, on se retrouve sur un fauteuil, comment faire, est-ce que tout est accessible, est-ce qu'il n'y a pas la petite marche qui va gonfler pour aller dans la salle de bain, celle de la douche. Mais très tendance, ces douches italiennes.
C'est tendance, mais il faut, en s'accrochant bien, on peut en prendre une. Mais non, ce dont j'avais envie de parler essentiellement aussi, c'est le handicap visible et le handicap invisible. Tel que vous me voyez, là je suis assis, je parle normalement, on pourrait croire que je suis pas malade. Voilà. Et puis c'est en me levant que, là je me lèverai pas, je roulerai, qu'on s'aperçoit que je suis malade. Moi je veux parler aussi à tous ces gens-là. Je veux parler aux gens malades de la sclérose en plaques, c'est le deuxième cas d'invalidité après les accidents de la route chez les moins de 25 ans. Mmh. Voilà.
Et il faut dire que cette maladie, c'est comme un cancer, c'est-à-dire que ça sommeille en soi, on le porte, et il suffit d'un élément déclencheur, peut-être émotionnel, pour que elle se révèle.
Alors, comme beaucoup de maladies auto-immunes, on pense que c'est ça. Encore une fois, il n'y a pas
une sclérose en plaques. C'est ce que vous.
C'est ce que je raconte.
Ce que tu racontes.
En préambule, je veux dire, il n'y a pas une sclérose en plaques qui ressemble à une autre. Moi j'en ai parlé avec différents professeurs, et en récapitulant ma vie sur ce bouquin, j'ai compris que la mort de Bruno Carrette avait été sûrement un déclencheur chez moi d'un fort stress, et ce fort stress voilà, ça a déclenché ma sclérose en plaques. On a mis un an pour me diagnostiquer, donc j'ai été diagnostiqué à 29 ans. C'était un moment incroyable de ma vie. On était, on était au sommet de la gloire. Ça passait bien.
Vous avez mis du temps pour
y aller. Et tu voulais
pas
l'entendre. Aussi. Ouais, c'est ça.
Non, mais moi, pourquoi j'ai pas voulu l'entendre? Je savais que si, d'une part, si je le disais, j'avais peur de perdre ma place. Et puis, j'avais vraiment pas envie de m'arrêter, quoi. C'était, comme disait un copain à nous, les Beatles à la plage. À une époque, les nuls, donc on s'amusait. On gagne de l'argent, c'est fantastique, hein, de tout d'un coup de dire bah tiens, on va te payer pour écrire des conneries. C'est un des plus beaux métiers du monde.
Ouais, des conneries qui sont devenues cultes, hein, il faut quand même le préciser.
C'est gentil, mais à l'époque c'était des conneries.
mais même quand, parce que vous étiez extrêmement connu, vous aviez peur quand même de perdre votre place.
Bah évidemment.
Ouais. Non, bien sûr. Non mais ce que je raconte dans le livre, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ne m'ont jamais pris pour un malade, mais juste pour une personne suffisamment intelligente pour écrire des sketchs, monter une chaîne de télé, produire 30 films, réaliser. Enfin voilà, j'avais peur qu'on me dise « bah non, t'es malade, non, on peut pas ». Donc, je l'ai caché, puis à un moment, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que il y avait d'autres gens qui me regardaient, qui étaient malades de la même maladie, j'avais envie qu'ils se disent « ah oui, on peut peut-être le faire ». Donc c'est ça qui était important.
Puis tu as cette image aussi de l'humoriste qui doit toujours être guillerette.
Il est poli d'être gay.
Ouais, c'est ce qui est dit dans le livre.
Et vous l'avez aussi caché aux assurances, parce que comment on se lance sur un projet, enfin, ou en tout cas, il faut avoir un assistant qui peut reprendre le film.
Ouais. Au début, j'ai parlé à un assureur, et je tiens à le remercier, il s'appelle M. Benex. J'ai eu une toute petite surprise, mais j'ai pu faire mon premier film, mon deuxième film. Après, il y a eu un film compliqué qui s'appelle Le Marquis, qu'on a tourné aux Philippines. Et là, on m'a demandé de prendre un assistant réalisateur qui pouvait finir le film.
Non, la phrase est dite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt?
Qu'est-ce qui se passe s'il meurt?
Ouais. Voilà. Mais c'est le cas avec des réalisateurs très âgés aussi. Récemment, c'est arrivé.
Ouais.
Une fois.
Là, en l'occurrence, j'avais 40 ans.
Oui, mais oui. Oui, mais voilà. Mais
non, mais c'est les Philippines quand même.
Ouais, les Philippines. C'est
5 semaines.
Et voilà. Et j'ai fait une avant-première en leur disant même pas mort. Ce qui est plutôt agréable.
C'est ça.
Mais cette phrase n'est pas de moi. Elle est Gérard Depardieu, je tournais Vidocq. Il a eu un quintuple pontage, il est revenu sur le plateau, il a ouvert la porte, il a crié « Même pas mort !»
Dominique Farrugia, elle ne m'a jamais quitté, ce récit chez Robert Laffont, un récit bouleversant et intéressant et passionnant et intelligent.
On va continuer.
Ouais, on va continuer d'en parler avec lui. Elle ne nous a pas quitté non plus. Elle,
pourtant, toujours vivant.
Voici Morgane Cadignan et le problème, Dominique. Moi, je t'aime, mais Morgane ne t'aime pas.
Eh bien, quelle semaine. Dominique Farrugia, je vous aime pas, même si je suis un peu emmerdée, parce que moi, c'est pas du tout cette phrase que j'avais envie de mettre après votre nom, en fait. Moi, mon but, ça a plus ou moins toujours été de dire Dominique Farrugia. Bah ouais, c'est mon patron. Ça aurait été bien, putain. Le prenez pas mal, Nagui, hein, je vous aime beaucoup. Et vous avez vu l'année dernière, quand il y a eu le patron de Édouard Leclerc, j'ai rien dit. Je me suis pas plainte de ma condition. J'ai dit Michel-Édouard Leclerc, je vous aime pas parce que les tickets de caisse, ils sont trop longs, mais je suis très bien ici. Nagui est un bon roi. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles musiques et le café est fort chaud. Mais là, Dominique Farrugia, quoi, le visage qui apparaît instantanément dans ta tête quand un mec lourd en soirée te postillonne dans le visage en disant non mais c'était les grandes années Canal, quoi. Dominique, je vous aime pas et je vous en veux parce que c'est en partie à cause de vous que je dois mes échecs à 2 ou 3 examens parce qu'au lieu de relire mes fichettes, bah je regardais les nuls. Après on a eu comédie à la maison et c'est à cette époque que ma mère a dû commencer à embarquer la télé avec elle dans son lit en allant se coucher pour que j'arrête de la regarder. Il y a quelle mère des années 2000 n'a pas prononcé la phrase « Je te préviens, tu vas dormir ou je débranche le modem ». Je débranche le modem. Et là, si j'étais Tanguy Pastureau, je ferais une panne incroyable sur François Bérou. Dominique, j'ai beaucoup de chance.
C'est vrai que c'est un modem, mon Dieu.
J'ai beaucoup de chance, vous m'avez fait rire toute ma vie. Et forcément, le jour où on vous reçoit, c'est pour parler d'un truc légèrement plus lourd. Vous publiez donc « Elle ne m'a jamais quitté » chez Robert Laffont. Robert Laffont, c'est la maison d'édition. Hein. Je tente de faire des phrases journalistiques parce que « Elle ne m'a jamais quitté » chez Robert Laffont, c'est une autre histoire qui raconte une meuf un peu collante dans une soirée chez un éditeur. Ça n'a rien à voir. Petit temps calme, tous ensemble, le temps que cette blague se mette en ordre dans vos têtes. Ça me va pas de faire des phrases compliquées pour qui je me prends. Leïla Kadour, come on. Reprenons dans ce livre, vous parlez de votre maladie et c'est l'occasion pour vous de raconter vos années de boulot en y intégrant le côté obscur de ce que vous viviez au quotidien et ainsi parler de la condition des 12 millions d'handicapés qui vivent en France. Voilà. Bah vas-y, fais une vanne, ma grosse, maintenant. Hein, vas-y, après avoir parlé de la condition des handicapés en France, vas-y, t'écoute, là. Demande-leur la différence entre une femme fontaine et un arroseur automatique. On va se marrer. Oh. Tu la vois, ta conseillère Pôle emploi qui t'attend avec le sourire de celle qui avait raison. Alexis, aide-moi, non? T'as pas fait un cours de taekwondo, une fête du poireau ce week-end pour me filer un truc à raconter? Bon, Dominique, elle ne vous a jamais quitté, mais après les nuls, Canal Plus et Comédie, je crois qu'on vous quittera jamais non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La France vous kiffe. Et pour citer un film que vous avez co-réalisé il y a quelques années, vous verrez, l'amour, c'est mieux à 66 millions.
Merci.
Yeah. Merci Morgane. Et Morgane, on la retrouve sur scène du jeudi au samedi, pardon, à 20h au Théâtre Métropole. Je suis réveillée, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Dominique Farrugia, elle ne m'a jamais quitté. Ce titre, en fait, fait que tu parles de la maladie comme d'un couple.
Bah, malheureusement, toi, tu l'oublies, elle t'oublie pas. Je le raconte avec l'ouverture de mon bouquin, c'est chaque fois que je me dis ah tiens ça va bien que je tombe. Ouais. Voilà, donc c'est elle ne t'oublie jamais, elle ne te quitte jamais.
Elle se rappelle à toi.
Elle se rappelle à toi, mais ouais, de manière forte parfois. Mais je pense que ça a doublé ma volonté de construire et de faire des choses. J'en suis persuadé. J'ai nié la maladie et je suis allé à fond et j'ai créé Comédie et j'ai produit des films et j'ai créé Cuisine TV et voilà, enfin, et j'en ai fait, enfin.
Et tout ça en étant conscient de vivre un rêve d'enfant, c'est-à-dire de pouvoir aller assister à la fabrication d'un Saturday Night Live, qui est le show par excellence de comédie qui a révélé les plus grandes stars de l'humour dans le monde, qui sont d'ailleurs un peu les références, les racines de l'humour des nuls avec les Monty Python. La chance de fréquenter les grands de ce monde du cinéma, des producteurs, d'avoir des rendez-vous dingues à Los Angeles, même si le Nasdaq a préféré que des productions s'écroulent et non pas lieu. Enfin bref, il y a des choses qui paraissent comme un conte de fées et c'est justement passer du conte de fées mais en se rendant compte que c'est un conte de fées, en ne trouvant rien normal, à la dure réalité de la vie qui donne ce chaud et ce froid dans le livre.
Je suis né le 2 septembre 1962 à Vichy dans l'Allier. Mon père était chef d'orchestre. On a quitté Vichy 15 jours après. On a tout mis dans la ronde et on est arrivé à Paris. Moi, j'ai vécu toute ma vie à Paris. Et le petit garçon qui a grandi 43 rue Notre-Dame-de-Lorette arrive là-dedans, découvre Canal, découvre tout ça, découvre aussi une âme d'entrepreneur. J'ai envie de le faire. J'ai eu la chance d'avoir tout ça Je pense que j'ai eu tout ça aussi, ça a l'air très bizarre, grâce à ma maladie. C'est-à-dire que j'ai bossé comme un taré. J'ai jamais
arrêté. Oui, c'est en allant le chercher, c'est pas que de la chance, on va le chercher.
Non, mais là, pourquoi je dis j'ai de la chance? J'ai de la chance d'avoir une phrase dans ma vie qu'une amie m'a dit, tu traites ta maladie. Il y a deux manières de traiter ta maladie. Comme une amie, tu restes au lit, tu te plains. Comme une ennemie, tous les matins, tu te lèves et tu vas travailler. Ouais. Voilà. Cette phrase-là, c'est comme un mantra et je me la suis appliquée à moi-même. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des matins où j'ai eu envie de rester au lit et envie de me plaindre. Mais j'ai eu envie de faire ça. Et puis, dans ma vie, j'ai des rencontres dingues. J'ai eu des coups de bol incroyables. Je déjeune avec les Azanavicius qui sont mes potes d'enfance. Ils me disent, oh, tu devrais aller
Michel
voir.
Et Serge,
Michel et Serge.
Azanavicius, ouais.
Et ils me disent, tu devrais aller voir cette pièce Robin des Bois d'à peu près Victor Hugo.
À Versailles.
À Fontainebleau.
Ah ouais, pardon.
Je lui dis, les gars, un, je vais pas au théâtre, deux, me faire chier à Fontainebleau, vous êtes gentils. Et là-dessus, Serge me dit, mais j'ai ma panda, je t'emmène ce soir. Ça fait vraiment rêver.
Ah, j'ai une panda.
Fontainebleau en panda.
Fontainebleau en panda. Il pleut des cordes. Je vocifère dans la caisse du début jusqu'à la fin. J'arrive, un très gentil monsieur, que j'apprendrai plus, que je connaîtrai plus tard, qui est le papa de Jean-Paul Roux, m'indique un endroit où nous garer. On rentre dans cette salle et je suis dingue du spectacle, dingue. Je les appelle le lendemain. Bonjour, je m'appelle Dominique Farrugia. Ils ont raccroché, pensant que c'était une blague. Je les rappelle. Je dis voilà, j'aimerais travailler avec vous. Et là, on pense à un film. Non, c'est pas possible. Pas de producteur pour la pièce. Je deviens producteur de spectacle. On fait la pièce. C'est un carton. Et moi, j'ai comédie en tête. Et je me dis, voilà, vous allez faire des sketchs à la télé. Sans eux, je faisais pas comédie.
C'est marrant, voilà. On dirait que t'es presque plus fier des Robin des Bois que de ce que t'as fait toi en tant que réalisateur, auteur, interprète.
Non, mais je suis fier d'avoir rencontré des gens qui vont de Franck Dubosc à Laurent Lafitte.
Oui, non, mais je veux dire, la fierté, elle est d'abord ça commence par dire merci à ceux qui t'ont tendu la main, mais ta fierté est de tendre la main aux autres.
Mais
c'est ce à quoi tu t'appliques aujourd'hui, oui.
Mais c'est ça fait partie de ma vie. C'est comme ça que je vis. J'ai vécu et je continue à le faire. Lescure parle de Canal comme d'une page blanche. Moi, on m'a offert une page blanche avec comédie et j'ai réussi à le faire. Et
alors que ce format de chaîne d'humour se plantait partout.
C'est la chance d'avoir un Lescure dans sa vie. On a une réunion dans le bureau de Lescure. Il a deux conseillers qui disent Sony s'est planté, c'est pas lui qui va le faire. Voilà. Et Lescure dit on va quand même le laisser essayer. Et puis s'il n'y arrive pas, il le fera pas.
Au pire, on aura perdu un peu d'argent.
Voilà.
Ouais, c'est jamais ça qui freinait, en tout cas, les idées qui pouvaient germer dans les têtes de ce canal historique, pour reprendre cette expression traditionnelle. Dominique Farrugia, elle ne m'a jamais quitté, chez Robert Laffont. Et voici Alexis Le Rossignol.
Et bonjour à tous.
Et bonjour à toi.
Ça va bien, vous allez bien? Super, nickel. Alors, vous avez vu cette semaine, le gaz et l'électricité ont augmenté.
Oui.
Enfin, les prix sont bloqués pour le moment, mais ça va venir. Pile quand il commence à faire froid. Du coup, j'ai dû changer mes habitudes, rapport au fait que j'ai qu'une chronique par semaine, tout ça. Avant, quand je prenais ma douche, je mettais une chanson de 4 minutes sur YouTube. Depuis le début de la semaine, je mets des chansons de 3 minutes. Et j'ai pas YouTube Premium, donc si je sors pas à temps, je me tape de la pub. Ce matin, j'ai eu droit à la pub Carglass. Comment ils ont autant de pognon à mettre dans la pub chez Carglass? Ils payent des types pour casser des pare-brises, c'est pas possible. Alors j'étais là avec la pomme de douche dans la main. Carglass répare, Carglass... Et merde, faut que je sorte. Et j'ai pas fait les pieds. Tant pis, je le ferai la semaine prochaine. Alors pour les gens qui, comme moi, veulent pas voir leur facture exploser, je propose un petit listing de chansons de 3 minutes à écouter sous la douche. Proposition numéro 1, je propose Crazy Little Thing Called Love de Queen, 2 minutes 54.
Ouais.
Ça swing, parfait. C'est léger, ça met de bonne humeur.
C'est calibré.
Et ça laisse 6 secondes pour passer un coup de raclette sur les carreaux de la douche. Sinon, il y a Dabali de Vianney. Voilà. Celle-là, elle dure pile 3 minutes. On dirait qu'il l'a écrite en anticipant l'augmentation du prix du gaz. Il doit être pote avec une voyante ou avec Attali, je sais pas. Après, ça reste Vianney, quoi. À l'inverse,
c'est gratuit.
Pour les réveils, vous mettez ce que vous voulez derrière ça.
Derrière Vianney.
Pour les réveils énergétiques, hein, il y a Énergie, il y a Spread It de Sidi Larsen. C'est du métal français, un café derrière était bien, quoi. Par contre, il faut avoir une activité qui va avec cette énergie. À éviter si t'es prof de tai chi, par exemple. Corazon Loco, ensuite, de Diego El Cigala. 3 minutes aussi.
Casting.
Ça, c'est espagnol. Tendance flamenco, c'est sensuel, tactile même. Ça donne envie de se frotter. Voilà, je ne me suis jamais aussi bien lavé les dessous de bras qu'en écoutant ça.
C'est une douche molle.
Ouais, mais c'est quand même, tu vois, c'est sensuel. Et proposition numéro 4, Ève, lève-toi de Julie Pietri. Ah. 4 minutes 53.
Ah, trop long.
C'est plus de 3 minutes, mais on va jamais jusqu'au bout. Voilà, c'est ma reco. C'est ma reco pour des douches de moins de 30 secondes. Ou pour se laver uniquement les oreilles. Voilà. Tant qu'on la supporte, c'est que les oreilles sont pas assez propres. Bref, le gaz va augmenter, donc on doit s'adapter. Mardi matin, j'avais une prise de sang, je me suis lavé qu'un bras. L'infirmière m'a dit, je vous la fais au bras droit. J'ai dit, oui, c'est celui qui est propre. Je mange plus de betteraves non plus. Vous avez vu le temps que ça prend de faire cuire des betteraves? Je cuisine au gaz, en plus, j'ai pas de cocotte. Donc, fini les betteraves. Après, c'est vrai que ça peut se manger cru. Vous aimez ça, vous, les betteraves crues?
J'adore. Ah,
c'est bon, hein, râpé comme des carottes.
J'adore.
Après, c'est un peu chiant à préparer, mais bon. D'ailleurs, en parlant de cuisine, j'ai eu plein de messages de soutien de gens qui connaissent le chef Dumas, dont j'ai parlé la semaine dernière, et dont vous avez dit que si vous le connaissiez pas, vous, sans doute les auditeurs non plus. C'est mal passé, ça. Désolé de vous le dire, mais sur ce coup-là, votre manque de culture a créé un élan de sympathie à mon égard. Pas désagréable. Sinon, j'ai joué au golf en début de semaine.
Non,
si, raconte ça.
Pour rajouter une minute à ma chronique.
Ouais.
Alors, on dit souvent que le golf est un sport de riches. C'est tellement vrai. Pantalon rose, polo jaune, chaussures bicolores. Faut vraiment avoir une confiance en soi que seul l'argent procure pour s'habiller comme ça. Après, c'est des trucs qu'on m'avait prêté, donc bon. En tout cas, les golfeurs, ils peuvent écouter des chansons longues, y a pas de problème. Hein. Atom Earth Mother sous la douche, 23 minutes comme ça avec la pomme dans la main. Quoi, le gaz a augmenté? Enfin, ça coûtait tellement rien avant. J'avais presque honte d'en utiliser. J'ai déjà entendu des gens dire non, le golf n'est pas si élitiste que ça. En fait, ces gens qui disent ça, hein, c'est ceux qui jouent au golf deux fois par an comme moi et que l'image du golf met mal à l'aise, qui essaient de dire, hein, que le golf n'est pas un sport de bourge. Moi, j'ai joué comme ça pendant 2 heures. J'étais à fait qu'on ne me voit pas. Je cultive une image de chroniqueur pauvre. Si on me voit là, ça va tout remettre en question. Alors que bon, c'est pas dramatique de jouer au golf. Hein. Et les vêtements, je les ai pas encore rendus. Donc je vais essayer de voir combien ça se revend sur Vinted. Hein. Ça se trouve, ça perd le gaz. Allez, bonne journée, messieurs.
Merci. Allez, silence.
Les meilleurs.
Et Alexis qui est sur scène ce soir à Liège et demain au Théâtre Le République à Paris.
Dominique Farrugia est notre invité. Elle ne m'a jamais quitté. Nous allons recevoir Pascal Ribes, qui est président de l'association APF France Handicap, dans quelques instants, pour évoquer justement des propositions faites à la fin de votre livre. Les défis lancés aux candidats à la présidentielle. Passer 12 heures sur un fauteuil, et vous comprendrez l'urgence de s'occuper de ce problème de circulation, d'accès, de rampe d'accès, de simplement descendre les trottoirs un tout petit peu.
Et vous les avez contactés, les candidats, pour leur faire la proposition?
Je me dis que si le président a appelé Jean-Marie Bigard un jour où il était bourré et a fait un truc sur Facebook, peut-être que là il m'appellera, j'en sais rien moi. Je me dis qu'il y a peut-être un espoir.
Et ne pas rendre ces personnes handicapées dépendantes aussi, parce que l'indemnité...
Ah non, mais...
Ça c'est un scandale, expliquez quand même, parce que...
Il y a une indemnité dont j'oublie le nom là maintenant, pardonnez-moi, qui est versée à un handicapé. Et aujourd'hui, si cet handicapé se marie avec un homme, une femme, il aura cette somme diminuée au prorata de ce que l'autre gagne.
Ouais.
C'est absolument scandaleux.
Ça rend encore plus ces personnes dépendantes.
Mais c'est scandaleux, ça rend encore plus dépendant. Ouais. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Scandaleux. Comme l'était scandaleux, pardonnez-moi.
Je t'en prie.
Le Sénat, qui a remis là 2024-2025, ça c'était en 2017 ou 2018, à 5 ans encore, le fait qu'on puisse adapter tous les services publics aux handicapés. Et c'était malheureusement un Sénat de gauche. Je n'ai jamais compris ça.
On va continuer de parler donc de ce livre. Et puis il y a d'autres parties obscures qui sont révélées, mais vous le dites 3-4 fois dans le livre d'ailleurs, j'ai promis de tout dire, je ne cacherai rien, je ne mens pas, je vous dis tout dans le livre, comme pour rajouter, si on avait besoin d'en douter, cette part de sincérité, de franchise et de vérité qui donne encore plus de poids évidemment à tous les détails abordés par Dominique Farrugia. La musique dans la vie de Dominique, ça commence en 84 avec Springsteen,
The Boss.
Pourquoi le boss?
Je pense que c'est le truc que j'écoutais tous les jours à l'époque. Enfin voilà, Springsteen, ça m'a pas, il m'a jamais quitté lui. Je l'écoute depuis les années 70 et j'écoute encore aujourd'hui. C'est une de mes passions avec le PSG.
Et c'est à la radio que tout commence.
En 84 ?
Ouais, non.
Non, c'est plutôt l'aventure Canal, la radio c'était avant, là. Europe, et
Europe
là vous...
Europe en 82, ouais.
Ouais, vous rencontrez...
Non, mais sur... Jean-Pierre Cancien.
RTL, ça, ouais. C'était super.
Et c'est grâce à lui que vous rencontrez sa femme, Dominique.
C'est ça.
Exactement.
Qui en fait de vous son assistant.
Elle m'a engagé comme assistant et auteur, ouais. J'avais rien écrit.
Faut dire que Jean-Pierre Cancien, on peut le dire, c'est quand même le mec le moins drôle de la planète. C'est un super réalisateur radio, mais qui faisait tellement la gueule quand il bossait. Moi, j'ai bossé des années avec Jean-Pierre.
J'étais au Standard de Max Meynier. Voilà, c'est ça. Le soir.
Fréquence Max
et c'était une vraie rencontre Max Meynier parce que c'était un type adorable,
ouais,
adorable, formidable. À l'époque, pas de portable, donc les mecs se parlaient en Sibie, avaient besoin de coups de main et lui mettait en relation ses routiers. Donc il y avait un Standard. Moi, je faisais partie du Standard. Après, je suis devenu chef de Standard.
Wow. Non, mais je parle de Jean-Pierre parce que ce qui est drôle, c'est je pense qu'il y a plusieurs animateurs qui sont passés entre les potentiomètres de Jean-Pierre en se disant waouh. C'est-à-dire Jean-Pierre Cancien, c'était le genre de gars qui, quand on faisait une émission de radio avec lui, si il estimait qu'on n'était pas bon de l'autre côté, il t'ouvrait pas le micro. C'est-à-dire qu'il enchaînait, il fait non, non. Mais je voulais parler là, ouais, mais enfin, pour ce que tu as à dire, c'est bon quoi. Et le mec, il envoie des jingles. Non, mais le mec, c'était un costaud quoi.
Ne donne pas d'idée à la régie.
C'était un costaud.
C'était, ouais, et puis c'est.
Et gentil et généreux, parce que là, ce qu'il a fait, c'est fort.
Je suis, comme d'habitude, en fin de contrat, puisque c'était des CDD. Et je lui dis, tu connais pas quelqu'un à télé? Il me dit, appelle. Dominique Cancien, mon ex-femme, il cherche un assistant pour Canal+, qui on était en mai juin
84 pour la naissance en novembre.
Et la naissance en novembre. Donc je suis allé la rencontrer. J'ai dû lui plaire puisqu'elle m'a engagé comme assistant de production sur une émission qui s'appelait Tous en scène, présentée par Agnès Grib
et Patrick
Poivre d'Arvor. Et puis moi j'écrivais des lancements, voilà, et j'ai fait des choses comme ça et ça. C'est vrai que...
Bah, t'es tombé quand même sur l'une des têtes pensantes de la télévision, Dominique Cancien, avec des Marie-France Brière, elles ont inventé des tonnes de trucs.
Et puis c'était une télé dingue, c'était tout d'un coup quelque chose de fort. Faut pas oublier qu'on avait trois chaînes, tout d'un coup arrivait la quatrième chaîne payante, que c'était totalement fou, que moi je suis... véritablement un enfant de la télé, puisque mes parents tenaient un bar-restaurant, mon père était musicien, donc je passais ma vie devant la télé, et que tout d'un coup je suis rentré de l'autre côté. Et pour ceux qui ont assisté un jour peut-être à une émission en direct de la régie, quand les écrans s'allument d'une régie, c'est dingue.
C'est un arbre de Noël.
C'est un arbre de Noël. Et là j'ai dit ok, c'est là que je veux être. Okay, je vais faire en sorte de rester là.
Et vous avez fait des bandes annonces aussi.
Vous parlez
de cette année comme une année merveilleuse, puisque vous avez vu quoi, je crois, plus de 300-400 films.
Génial.
Voilà, il fallait trouver une écriture aussi là-dedans.
Mais c'était. Alors, ça, c'est tout De Greffe. C'est De Greffe qui vient me voir un jour, je suis à la machine à café, il me dit bon, tu vas écrire des textes de bandes annonces et puis tu vas les réaliser. Bon, d'accord. Tu viens voir Lescure demain. Je ne connaissais pas Lescure, moi j'étais.
Non, mais il ne se pose pas la question de vous. Votre capacité à faire ça.
Ah non,
ça
non, mais il se pose aucune question. Je rentre dans le bureau de Lescure, qui était décoré avec ses objets 50, son machin. J'étais par terre, proche de ma moquette. Et Lescure m'appelle Farouge. Je lui dis, mais comment il connaît mon surnom, lui? Je ne lui ai jamais parlé. Et la chance que j'ai dans toute cette aventure, c'est que c'était donc ça en 85, et que Lescure, depuis, je déjeune avec lui une fois par mois et qu'on s'est jamais quitté non plus. Et non, c'était fou. Et puis, faire des bandes annonces, c'est apprendre le cinéma.
C'est ça.
C'est une formation accélérée. Parce que souvent.
Et c'est rencontrer un monteur qui va devenir réalisateur aussi.
Voilà, Alain Berberian. Mais regardez des nanars, des films japonais, des super films, et de prendre des time codes et les monter les uns aux côtés des autres, c'est super. Ensuite, t'écris le texte et t'as la voix off qui le fait. Et puis après, t'as. Moi, j'aime bien balancer des conneries, donc j'écrivais le quatrième volet de la trilogie. ça me faisait marrer, la fille avec ça. Le quatrième volet de la trilogie La Guerre des Étoiles. Tu vois, elle le faisait super bien. Voilà.
Il y avait beaucoup de messages subliminaux qui passaient comme ça. Il y avait des vannes pour des potes ou...
Non, il y avait, par exemple, Europe 1, quand j'étais au Standard, les gens me disaient Europe 1, je répondais lui-même, appelez-moi Papin. Il y avait un blanc. Il y avait un blanc. Mais c'est ma vie de faire des conneries et de dire des conneries.
Ouais, voilà, est-ce qu'une vanne est aussi un test pour voir si l'autre fait partie un peu du même, même famille ou pas?
Non, si ça fait rire, c'est...
Si, oui, mais si une vanne passe pas, tu dis ok, laisse tomber.
Mais t'apprends vite que si la vanne fait pas rire, tu la mets dans la poubelle. Enfin, il y a un dossier rond à côté de toi, tu le mets dedans, ça s'appelle la poubelle. C'est bon, si ça fait pas rire, ça fait pas rire.
Non, mais c'est peut-être la personne qui n'est pas réceptive.
Ouais, il y a avec les nuls, on était parti d'un principe assez simple. Si ça nous fait rire, ça peut faire rire les gens. Mais si ça nous faisait pas rire...
Entre vous.
Entre nous, ça passe pas. On jetait.
94, Dominique Farrugia, vous écoutiez. Oh, ça, c'est le côté romantique, ça.
Ah, ça, c'est la The Comédie Romantique. Hein.
Quatre mariages et enterrements.
C'est quatre mariages et un enterrement. Ce qui est super, c'est que dans la dernière grande comédie romantique qu'a écrit Richard Curtis, il se sert de cette chanson et c'est le fil rouge de la chanson. Ça se passe à Noël, voilà. C'est pas la meilleure version, mais ça m'amusait qu'on l'entende ce matin.
Et 94, ce sont les 10 ans de Canal+. Vous arrivez sur un autocrotte avec Alain Chabat pour la fête donnée par Canal+. Et Chantal a la main qui rippe, en fait.
Ouais, elle appuie sur le mauvais bouton, le bouton marron.
Mais non.
Non, c'était...
Et il se passe quoi?
Il se passe qu'on est projeté contre le mur par du faux caca, qui était un mélange de... qu'avait fait ma maréchale, qui a eu un César comme décorateur, je dois le dire.
Comment faire autrement?
Mais voilà, mais pas pour ça. Et c'était dingue parce qu'il y avait le mur des guignols, on l'a niqué, le mur des guignols. Gassio tirait une gueule de 16 mètres de long.
Étonnant. Disant,
c'est pas possible. Oui, c'est étonnant.
Ça, c'était un lundi, donc.
C'était toute la semaine, même. Et non, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Mais qu'est-ce qu'on s'est marré? Ouais, parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas dans les locaux. On découvrait les locaux, donc on se paumait, on était toujours rue Olivier de Serres, alors qu'ils avaient déménagé dans leurs beaux locaux. Sur les quais de la Seine.
Non,
c'est ouais. quel souvenir de taré. Mais ça encore, c'était une liberté de ton absolument folle qu'on avait et qu'on pouvait faire. Voilà, on les avait même pas prévenus, je crois.
C'était open aussi en termes de budget. Nos limites.
C'était
pour
pas
la vanne, tout pour la vanne.
Il fallait. On n'a jamais été animateur-producteur. On a toujours été animateur. Donc, on nous donnait de l'argent et on mettait tout à l'antenne, parce qu'il n'y avait pas d'histoire de marge, de quoi que ce soit. Donc. Ce qui m'aurait arrangé à l'époque. J'avais mal négocié, c'est de ma faute. Et donc, oui, on mettait tout à l'antenne. Les nuls de l'émission, c'était un travail de fou. On travaillait 6 jours sur 7. Les décors étaient magnifiques. Les costumes, enfin, c'était dingue.
Vous parlez de la fatigue aussi. Vous étiez vraiment, mais complètement... Alors, le samedi soir, vous faisiez la fête. Vous aviez négocié qu'en fait, le samedi soir, il y avait une grosse fête.
Il y avait plus qu'une grosse fête.
Voilà, ouais. C'était une orgie, quoi.
Il y avait tout Paris qui se battait pour y être.
Ouais. C'était taré. C'était dingue. On avait par contrat le droit de faire une fête après l'émission.
Non, mais c'est
je vous assure qu'on l'a mis dans le contrat.
Ça a changé le métier.
Il reste du shampoing, mais il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. Il n'y a plus rien. Puis passer derrière les fêtes des nuls de Canal, accroche-toi pour être
à la hauteur
de la fête.
Exactement. J'avais la chance d'être invité. J'avais la chance d'être proche.
On était très potes.
De cette bande. Pourquoi tu dis on était?
Non, on voyait beaucoup, on sortait plus. On est un peu vieux.
C'est clair. Pascal Rie, merci de venir à ce micro, Pascal.
C'est moi qui vous remercie et je suis vraiment ravie et impressionnée. D'ailleurs, je dois le dire parce que je suis fan, même doublement fan, à la fois de Dominique et puis de vous, Nagui.
Et nous, vraiment,
merci. Non, vous non.
Déjà,
les fans de Nagui, c'est que bon, elle n'a pas un
feeling. Le bien et le mal.
Non, c'est dommage.
Présidente, arrêtez. Présidente de l'association
APF
France Handicap. On l'a dit tout à l'heure avec Dominique Farrugia, la France est en retard dans sa manière d'accueillir et la politesse vis-à-vis des handicapés. Qu'en est-il de l'Allemagne, l'Angleterre, de nos voisins européens?
Alors, on peut dire que, pour simplifier, on peut distinguer les pays du nord de l'Europe des pays du sud de l'Europe. En général, les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus accessibles que les pays du sud de l'Europe est beaucoup plus inclusif dans
tous
les domaines.
Oui, mais pour l'égalité avec les femmes, pour l'écologie, pour le respect de l'handicap, c'était
pour la transparence en politique et l'économie. Ouais, ouais,
c'est fou.
C'est parce que l'approche est certainement différente. C'est une approche qui n'est pas charitable et qui est une approche qui est fondée davantage sur les droits finalement pour les pays du nord de l'Europe. Et donc, on estime que dès lors que vous pouvez pas accéder quelque part, c'est une discrimination et donc il faut lever les obstacles. Enfin, c'est aussi simple que ça.
Donc, s'il y avait un modèle à suivre, ça serait lequel?
Ça serait plutôt le modèle des pays du nord de l'Europe et aussi également les États-Unis.
Oui, alors qu'ils font quoi exactement?
Alors justement, déjà, l'environnement est adapté, c'est-à-dire qu'on considère que l'environnement...
L'accès.
Oui, absolument. On considère que l'environnement joue un rôle, en fait, dans la mise à l'écart d'un certain nombre de personnes, et que ça, c'est pas acceptable. Et donc, du coup, il y a une véritable politique volontariste pour faire en sorte d'aménager l'environnement. Et alors, à l'inverse, en France, on a conscience que l'accessibilité est un droit donc fondamental qui doit être accordé à tous, mais on l'impose dans une loi. Lorsque cette loi arrive à échéance, donc c'était la loi de 2005, en 2015, on se dit, oulala, on sera jamais, on n'aura jamais réalisé 100% l'accessibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déroge à cette obligation d'accessibilité qui est un droit fondamental pour tous, pour tous les citoyens finalement. Et donc, on fait des ADAP qui permettent de proroger la mise en accessibilité avec des délais supplémentaires de 3, 6 et 9 ans. Et là, on arrive en bout de course où finalement, on a plus des exonérations, des dérogations parce que même ces délais-là ne sont pas respectés.
Alors, il faut quoi? Il faut augmenter les amendes, par exemple, si dans le monde du travail, les quotas ne sont pas respectés. Il y a des quotas. Y a-t-il des quotas? Sont-ils imposés? Sont-ils suivis? Sont-ils respectés? Oui.
Pour l'emploi, oui, évidemment, il y a des quotas. Donc ensuite, si vous les respectez pas, c'est pas comment dire, vous devez verser une sorte d'amende, si vous voulez,
sur une compensation.
Une compensation. Voilà. Pour selon que vous êtes dans le secteur de la privé ou public, eh bien à la GFIP pour le secteur privé et au FIPHFP, donc le fonds pour l'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, voilà, des fonds qui permettent finalement d'aménager les postes de travail, qui permettent de fournir de la formation, enfin voilà.
Quelle serait pour vous la première ou les deux, trois premières mesures concrètes qui seraient essentielles à prendre urgemment?
Essentielle à prendre et facile à prendre, la déconjugalisation de l'AAH. Ça, c'est la première.
C'est terrible.
Absolument.
C'est ce dont je parlais tout à l'heure.
L'indemnisation.
La déconjugalisation. Mais c'est terrible, c'est terrible. De se dire, déjà, je suis handicapé, j'ai trouvé quelqu'un. Je vais vivre avec, donc je vais me marier. Eh ben, bon, t'es déjà assis et tu roules, et en plus, on t'enlève de l'argent. C'est taré. Pardon de parler avec
non,
des
mais
termes
ça sort. Mais... Oui, mais c'est motivé par quoi?
Deux crétins de Bercy qui se sont dit, tiens, on peut gagner un peu d'argent là-dessus.
Alors, il y a des crétins de Bercy, mais il y a aussi, effectivement, oui, tout à fait. Mais il y a aussi, je pense, on parlait d'approche tout à l'heure, hein, notamment d'autres pays du nord de l'Europe, etc. Et la France qui est dans une approche plus charitable. Et du coup, effectivement, dans cette approche charitable, on considère que le conjoint, voilà, comme si c'était normal, eh bien, dès lors que vous êtes marié, il doit assumer la charge de son conjoint.
Mais c'est discriminatoire, parce que quand on est marié à quelqu'un qui est au chômage, il touche son chômage.
Oui.
Et on n'indexe pas le montant de cette somme sur le revenu de l'autre conjoint. Et on considère que les individus ont des droits à part entière.
Absolument.
Donc ça, c'est votre première demande.
Ah mais c'est la première demande et c'est une demande qui est vraiment essentielle, en plus qui est tellement injuste. Aujourd'hui, le fait d'être marié ne change pas le handicap.
Clairement.
Le handicap demeure. Donc il est absolument anormal que vous deveniez à la charge totale de votre conjoint juste parce que vous êtes marié.
Oui.
Enfin voilà.
Une autre mesure qui serait essentielle à prendre?
Alors moi j'en ai plein, enfin c'est un peu le problème.
Non mais je vous en prie.
Mais parce que malheureusement, c'est dans tous les domaines que les discriminations envers les personnes sur le handicap sont légion et courantes et journalières même. Bon, moi je dirais que en fait, si on veut agir sur des déterminants sociaux, c'est vraiment l'accessibilité. À un moment donné, là, il faut faire quelque chose. Là, l'accessibilité, parce que c'est le cadre social qui conditionne finalement aussi l'accès à tous les autres droits.
Merci Pascal Rey, président de l'association APF France Handicap. Passez une très bonne journée.
Merci.
Monsieur Tom Villa est là pour remettre un prix. Bonjour Tom.
Bonjour.
Alors, quels sont les prix de la semaine? En tout cas, les nommés.
Dans la catégorie du pire scénario de la semaine, les nommés sont... Premier nommé, le groupe...
Sting.
Oui, exactement. Le groupe Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, dont les services sont tombés en panne pendant 6 heures. Voilà, si vous êtes rendu compte de rien, c'est que vous habitez dans une zone blanche ou juste que vous n'avez pas d'amis.
Vous êtes normal.
Sting. Deuxième nommé, gros scandale de pédophilie dans l'église. Évidemment, pas de vanne. Hein. Plus de 3000 prêtres et religieux auraient abusé sexuellement des enfants depuis 1950. Direction l'enfer, vous ne touchez pas 10 000 hosties. Et si d'aventure il y avait des castos et des cathos qui venaient à vouloir. Des castos. Qui restent chez eux. Mais en tout cas, si d'aventure il y avait des cathos qui venaient à vouloir nous écrire une lettre de mécontentement, je demanderais d'abord qu'ils se désolidarisent de l'église catholique avant. Merci de votre compréhension. Et merci Dominique pour le rire.
Oh, ça y est, père. Oh là 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 là. Sa journée.
Troisième et dernier nommé, selon des sondages récents, Éric Zemmour passerait devant Marine Le Pen au premier tour et serait présent au second tour face à Emmanuel Macron. Il faut dire aussi qu'il a un programme béton pour limiter l'exil fiscal massif. Il propose de stopper l'immigration. Pour protéger les enfants des pédophiles dans l'église, il propose de stopper l'immigration. Et pour éviter le réchauffement climatique, une proposition originale qui serait de stopper l'immigration. Et le grand gagnant dans la catégorie du pire scénario de la semaine,
les
et
gaffa,
entre parenthèses, Castro. On est quand même un peu là pour déconner, est la planta des réseaux sociaux. Lundi soir, le pire du pire est arrivé. Panne mondiale de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Donc là, il manquait que YouTube et Candy Crush et on avait des centaines de suicides sur les bras. En tout cas, c'est un bon test de savoir pour savoir si t'es utile dans la société. Si la panne d'Instagram et de Facebook a complètement arrêté ta vie, bah, c'est que tu sers à rien. Non mais c'est vrai, les seuls qui ont eu leur journée de niquer, ce sont les anti-vaccins et les influenceuses. Je veux dire, les médecins, les infirmières dans les hôpitaux, les profs, les policiers, les pompiers, les caissières, ça n'a rien changé à leur journée. Puis surtout, c'est l'effet papillon. S'il n'y a plus de réseaux sociaux, bah, l'iPhone, il n'a plus aucun intérêt. Tiens, on va pas se cacher, l'iPhone, c'est pas pour l'appli boussole, hein. Ah, bah, dis donc, on est sud-sud-ouest, ah bon, on s'en bat les couilles, voilà. Donc, la preuve, quand, je veux dire, un train ne part pas alors qu'on l'a payé, on gueule, on se plaint, on contacte le service client. Là, pour une panne de 6 heures, quelqu'un a contacté Mark Zuckerberg pour lui dire qu'il était pas content, non? Puis même, allez, t'es chaud, t'écris, tu écris sur quoi? Facebook, voilà, merci. Donc, imaginez, les mecs qui avaient un problème de train lundi soir et qui voulaient gueuler sur Facebook, allez, la double peine. Donc, tout d'un coup, on a vraiment vu pendant 6 heures, ce qui était vraiment important dans la vie. Avec WhatsApp, on s'envoie des photos un peu à la con toute la journée, c'est vrai, et ça sert à rien. T'sais, on est d'accord, lundi, pendant le bug Facebook, Instagram, WhatsApp, personne s'est dit, attends, la photo du pigeon qui vomit, elle est vraiment quand même trop drôle. Merde, je peux pas l'envoyer par WhatsApp. Alors attends, du coup, je vais l'imprimer, je vais aller chercher une enveloppe, un timbre, trouver dans le bottin l'adresse de mon pote pour aller la poster, et qui rigole dans 48 heures quand il la recevra. Non, personne n'a fait ça. Donc on dit que Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ont planté. En fait, c'est une seule société qui a planté. Donc c'est là, tu vois, on a découvert la diversité la des entreprises hein, d'Internet aux États-Unis. T'as une seule société qui plante et tu peux plus communiquer. T'as l'impression d'être revenu à l'Union soviétique. Alors la SNCF, c'est vrai que bon, ils bossent bien, mais de temps en temps, il y a un train qui tombe en panne. Ça va, ils sont pas traumatisés. Enfin, je veux dire, ils savent que on aura réellement besoin de reprendre un train, alors que Facebook. C'est moins sûr, quoi. Et Facebook est tombé en panne. 6 heures. 3,5 milliards d'utilisateurs en galère. À cause de cette coupure de Facebook, l'action de Mark Zuckerberg a perdu 7 milliards en quelques heures. Et on sait pas où ils sont. Je veux dire, quand t'es dans une économie où tu peux perdre 7 milliards en quelques heures, et que personne ne sait où ils sont passés, c'est qu'il y a un souci quand même. Je veux dire, c'est dans la nuit, Facebook a communiqué sur ce problème en expliquant qu'un changement dans la configuration des routeurs du cœur de son réseau qui coordonne le trafic entre nos data centers a provoqué un problème qui a interrompu les communications. En gros, il y en a que 32 dans le monde qui ont compris ce que c'était vraiment. C'est vrai que c'est plus simple avec la SNCF. Bah, le train est arrêté en pleine voie, on s'est pris un sanglier. Bisous, voilà. Bref, Facebook a bugué pendant 6 heures. Alors, on connaît le rôle des réseaux sociaux dans la présidentielle qui a vu l'élection de Trump. Si Mark Zuckerberg nous écoute, et je sais qu'il est fan de la bande originale, Marc, Marco, si tu veux couper Facebook en France pendant 6 mois et nous éviter une élection de merde, on n'est pas contre. Allez, bisous.
Merci. Tom Villa.
Et Tom, tu es sur scène à la Nouvelle Ève à Paris à 20h les lundis.
Oui.
Et saluons tous les castos.
Ouais. Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je veux parler de pollution sonore. En Inde, ils prévoient de remplacer le bruit des klaxons par des bruits d'instruments de musique, hein, une sorte de feu de la musique permanente. Enfin, c'est atroce.
C'est le monde original avec les lacs de Boudouille, Morgane Gagnon, Tom Vidal, Cyril Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et Monsieur Dominique Farouchard. Dominique, il signe « Elle ne m'a jamais quitté », ce récit chez Robert Laffont, Versilio, je n'ai pas cité le co-éditeur. Dominique, vous racontez tout de votre vie privée, vous racontez tout de votre intimité, de vos histoires personnelles, de cette maladie.
Mais ça reste pudique.
Mais pourquoi, pourquoi aller dans des zones encore plus obscures, et comme pour prouver que tout est vrai? Pourquoi? Non, mais je pense aux soirées coke qui vous ont attiré pendant un certain temps. Mais pourquoi?
Bah parce que si je parlais pas de ça, je parle de mes amis d'enfance qui sont encore mes amis pratiquement 50 ans après. Et si j'en parlais pas, je trouvais que de parler d'eux et de pas parler de cette errance qu'était la cocaïne,
ça faisait pas sincère.
C'était pas sincère. Donc j'ai eu besoin de l'expliquer. J'en fais pas des heures, mais j'avais besoin d'en parler. C'était important.
Alexis,
et vous dites d'ailleurs dans le livre que vous le regretterez plus tard. En quoi vous le regrettez aujourd'hui ?
Basiquement, prendre de la cocaïne, c'est dire des conneries pendant 12 heures à un autre crétin. Donc j'ai perdu des heures. Voilà, des heures de vie énormes.
Enfin, c'est aussi un peu ce qu'on fait là. Hein.
Sans prendre de cocaïne.
Oui, mais c'est le matin et c'est plus sain.
C'est vrai.
Et donc, à la limite, vous pourriez aussi presque écrire un livre là-dessus pour...
Non, parce que ça a jalonné ma vie, mais c'est pas l'ensemble de ma vie quand même.
J'entends. Mais je parle dans la valeur de transmission, d'éducation ou d'exemple en disant « faites pas la connerie d'y aller ».
Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, il était impératif de parler de la sclérose en plaques, parce que on en parle peu, parce que du handicap, on vient d'en parler, c'est quand même assez terrible d'être aussi loin des autres
aussi
pays,
en retard, ouais, c'est
aussi
ça.
En retard. Ouais. C'est un type comme Boris Johnson hein, qui a converti Londres pour les Jeux de 2010 ou 2012, j'oublie.
12.
Il a creusé le métro pour faire des ascenseurs, quand même. Voilà, la coke a fait partie malheureusement de ma vie et malheureusement d'une génération de crétins comme moi. Voilà, je me devais d'en parler, j'avais pas envie de m'étaler.
Elle ne m'a jamais quitté. Est-ce que vous vous dites aussi, en pensant à votre famille, à vos enfants que vous citez dans le livre, à votre épouse exemplaire, est-ce que vous c'est aussi pour eux que vous écrivez? Pas uniquement pour les candidats politiques.
Non, c'est pardon.
Si, parce que ça raconte votre parcours aussi.
C'est formidable d'avoir rencontré ma femme à 42 ans,
Isabelle,
que on a fait un immense chemin ensemble. Pas facile pour elle parce que c'est compliqué et que. Mais voilà, j'avais envie de parler d'eux. En ne m'étalant pas, en restant le plus en retrait possible. Mais voilà, j'ai deux filles formidables et une épouse géniale. Et grâce à elle, je me lève le matin, je travaille, j'ai continué en vie. Voilà, il faut avoir un élément déclencheur aussi certains matins pour y aller. Et quand je les vois partir au collège, là maintenant, ça super. Voilà.
Dit-il avec un sourire qui vient barrer son visage. Dominique Farrugia, Elle ne m'a jamais quitté. C'est publié chez Robert Laffont et Monsieur Tanguy Cassureau d'arriver.
Il y a différentes sortes de pollution. La pollution de l'air. Récemment, j'ai fait du vélib dans un couloir de bus derrière un bus. Ensuite, j'ai craché pendant 2 heures comme un lama ou un joueur de la Ligue 1 Uber Eats. La pollution de l'eau. Moi, en Bretagne, pendant 2 décennies, j'ai bu de l'eau du robinet coupée au lisier. J'ai tellement ingéré de caca de cochon que je pourrais tutoyer Justin Bridoux sur toute une vie. La pollution visuelle qui a connu 3 étapes. 1, la barbichette du rappeur Lefouine. 2, les croques vertes. 3, la doudoune sans manche Burton de Bruno Retailleau. Il y a la pollution spatiale. On a envoyé Thomas Pesquet bosser dans l'espace. Soi-disant, résultat, il branle rien. Hein, il passe sa vie à prendre des photos de la baie de Somme avec son iPhone. Enfin, Pesquet, c'est un Yann Arthus Bertrand qui s'est monté un peu trop avec son hélicoptère. Et surtout, on a la pollution sonore, la plus atroce car elle est fourbe. Vous êtes un mec, vous allez chez Etam Lingerie, peinard, vous masturbez au rayon soutien-gorge. La vie, quoi. Quand soudain, paf, le magasin fout le dernier maître Gims qui queen et immédiatement, c'est la panne intime. Ça le fait à tout le monde. Personne ne fait l'amour sur du Gims. Même lui, quand il fait l'amour, il parle avec la voix de Laurent Romeshko, hein, pour ne pas s'entendre lui. Il se retrouve à dire à sa moitié, bébé, on fait un 72-3. froid. Elle répond, eh bien Laurent, le compte est bon. Hein. Alors, la pollution sonore est partout. Au parc, il y a des enfants qui hurlent, hein, pour ne rien dire, car l'enfant est superficiel. Eh, hey, toi t'es bête. Non, c'est toi qui es bête. Et il n'y a pas un adulte pour se lever de son banc et crier, savez quoi, vous êtes deux cons, hein, au motif que personne n'a envie de finir à l'HP. Bon. Autre pollution sonore, les ados. Personne ne leur a révélé l'existence du casque audio, parce que les mini-enceintes portables accrochées au vélo et qui diffusent à fond, dodo, donnez-moi de la moulaga. Enfin, on a envie d'aller chez Europcar et leur dire, j'aimerais louer un SUV le plus gros que vous ayez pour 9-10 minutes. La pollution sonore est partout. Au ciné, les bruits de pop-corn, au théâtre, il y a toujours quelqu'un qui tousse ou qui a un rire pas possible et qui se marre du début à la fin. Et c'est à cause de ces gens-là que certains humoristes continuent leur carrière. Hein, ils se disent, yes, il est bien reçu, mon sketch sur les meubles Ikea, vachement dur à monter, qui n'a jamais été fait. Allez, si j'en faisais un sur les relations hommes-femmes. Et un jour, on réalise qu'en fait, la dame au premier rang souffrait d'une déformation de la glotte. Moi, j'en peux tellement plus du bruit que je suis à deux doigts de lancer Radio Sing, une radio entièrement diffusée en langue des signes et pas filmée. Mais le pire, ce sont les klaxons. Ça n'arrête pas. À Paris, au feu, si tu n'as pas démarré dans le quart de seconde qui suit le feu vert, ça klaxonne. Les gens arrivent à devancer l'apparition des couleurs. Hein, parfois, quelqu'un vous dit, dans 7 minutes, il y a un arc-en-ciel. 7 minutes plus tard, il y a un arc-en-ciel. On vous dit, là, au coin de la rue, il va y avoir une horrible explosion de couleurs mal coordonnées. Tac, au coin de la rue, surgit une fille sapée en désigual. Donc, ça klaxonne tout le temps. Et Anne Hidalgo ne fait rien puisqu'elle est occupée à chuter dans les sondages. Mais ça klaxonne aussi à Marseille, à Mulhouse, à Rennes, quand quelqu'un fait tomber sa 8-6, tout le monde klaxonne pour se foutre de lui, et à Bourg-en-Bresse. Et ça klaxonne aussi en Inde. Alors, je sais pas si vous êtes déjà allé en Inde. Moi, non, mais je connais bien, parce qu'en 92, j'ai vu la Cité de la Joie avec Patrick Swayze. En plus, hier, j'ai mangé un Inde fromage. Vous voyez, donc, pour n'importe quelle chaîne info, vous voyez, je serais un spécialiste. Voilà. Bon, donc, en Inde, ce pays chamarré où au marché, on peut acheter des épices ou des reins de pauvres, les gens klaxonnent trop. Au volant, ils sont énervés. Dans certains coins, il y a une vache sacrée qui s'allonge. Faut attendre 4 heures qu'elle ait fini sa sieste pour passer, parce que la vache, là-bas, c'est l'équivalent du syndicaliste qui bloque la nationale. Hein, la différence, c'est que la vache mange de l'herbe et le syndicaliste, donc, des barquettes de frites. Voilà. La vache ne peut pas manger des barquettes de frites, elle n'a pas de doigts. Si Jules était une vache, il serait bien embêté pour faire son geste à la con avec ses sabots. Bref, il y a trop de bruit en Inde. Si bien que le ministre des Transports, Nitin Gadkari, songe à remplacer les sirènes de la police et les ambulances, puis après les klaxons, par, dit-il, des airs de musique apaisants. Du violon ou de la flûte, dit-il. Alors, je ne vois pas en quoi la flûte, c'est apaisant. Il n'y a pas plus irritant que la flûte. On en a tous fait au collège. Moi, j'ai tenu un demi-cours avant de retirer une haine farouche de la civilisation occidentale. S'il y avait eu un vol Quimper Alep, je me barrais en Syrie. À part au Puy du Fou, personne ne joue de la flûte. Et même là-bas, si on en joue, on se fait éborgner par un aigle. À Guantanamo, pour faire craquer les prisonniers, on leur jouait de la flûte. Les mecs avouaient tout. Le 11 septembre, l'assassinat de Kennedy, ils disaient en fait la voix de Milli Vanilli, c'était moi. Et j'ai volé le coffre-fort d'Alexandre Benalla. 19 ans avant que l'autre ne le perde. La flûte est une création de Satan. Et comme toutes les inventions perverses, elle a ses déclinaisons maléfiques. La flûte de Pan, celle des Péruviens, à cause d'eux, j'ai arrêté de prendre le métro. C'est appelé le Condor Passa, exécuté à 10h du mat par des mecs en poncho, la doudoune sans mange des Péruviens, c'est trop. Il y a aussi la flûte nasale, qu'on se fourre dans le nez parce qu'elle est petite. Pete Doherty, en 2003, avec ce qu'il avait dans le pif, pouvait jouer de la flûte nasale pendant 16h30. Hein, son nez jouait tout seul, il avait acquis son autonomie, Pete l'appelait Roger. Bon. Il y a aussi le piano nasal, mais il faut avoir un grand nez. Moi, non, la flûte n'est pas apaisante, elle est atroce, c'est encore une idée à la con, tout est mieux que la flûte, donc par pitié, gardons le bruit des klaxons, et tant pis pour la pollution sonore.
Merci, dans
Et Tanguy, tu seras sur scène le 24 octobre à Saint-Raphaël, dans le Var.
La culture encore, il y a évidemment ce livre de Dominique Farrugia, Elle ne m'a jamais quitté, qui sort aujourd'hui, mais également Leïla Kadobou-Dedi.
Si je vous dis Sony, Apple, Netflix, Amazon, Annapurna, Universal, MGM, Warner Bros, ils se disputent le même projet pour cette fin 2021. Mais qui est derrière ce projet? Qui rend fou?
Un projet d'un film.
Un français. C'est un duo. C'est pas un français. Farr
Cohen.
Non. Ils sont plutôt connus comme comédiens que comme réalisateurs.
Charlie Dinoufiel.
Charlie Dinoufiel.
C'est vraiment assez glamour. C'est beau.
Ils sont connus
pour avoir tourné ensemble, notamment dans Burn After Reading.
Ah, Brad Pitt et
Angelina Jolie.
Et Javier Bardem.
Non. Brad Pitt et
Jennifer Aniston.
Ocean Eleven,
George Clooney.
Voilà, Brad Pitt et George Clooney.
Oh, c'est pas une victoire, hein. C'était.
Moi aussi. Dominique Lavé. Dominique Lavé.
Ah bon.
Ils ont un projet ensemble et ça donne. Ils ont un projet ensemble et ça donne lieu à la plus grande bataille de chéquier de l'année. Tout le monde veut en être et forcément tous les deux, Georges et Brad, ils font monter les enchères comme des fous.
Étonnant.
Ouais, ouais c'est étonnant. Ça sera réalisé par John Watts, celui qui a réalisé la trilogie des Spider-Man et pas mal d'autres choses. Ils sont tous les deux dans une volonté. Non, je ne vais pas raconter toute la liste des trucs de John Watts. Non, on s'en fout. C'est un rêve de producteur d'aller aux États-Unis, parce que dans le bouquin vous parlez quand même de cet espace comme un rêve de fou.
J'ai vraiment eu envie plusieurs fois. J'ai écrit là-bas. J'ai écrit des dialogues pour un film qui s'est jamais fait. Les Américains vous reçoivent très bien à l'arrivée. Ils vous envoient une voiture avec un chauffeur. Ils vous donnent un très bel hôtel. Quand vous faites virer, vous commandez votre voiture tout seul et vous rentrez tout seul. C'est exactement comme ça. Non, j'ai compris en arrivant aux États-Unis que si on n'était pas américain, je ne ferais rien.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça restait un fantasme. Maintenant, ces deux garçons sont très balèzes, ils sont beaux, tout ce qu'on veut. Ils ont une boîte qui s'appelle Chapter 8 et ils savent très très bien faire monter les enchères et ils se prennent pas au sérieux, ce qui est absolu. J'ai eu la chance de produire les Césars 5 fois et j'ai eu donc la chance de rencontrer George Clooney. Je l'ai même dirigé, You Hunter from the Left. voilà les gars.
Ouais, la classe.
Voilà et il m'a dit thank you. mais le type est dingue parce que d'une humilité folle et racontant
autodérision
et nous disant gentiment que il choisissait ses films et c'est pour ça qu'il faisait de la pub de café en Europe.
Ah ouais. Voilà. Complètement lucide.
Ça calme, franchement.
C'est un super. Autre question. Question de sous, encore une fois. Quel est le nouveau combat de Marvel? Ça pourrait se finir en procès.
Scarlett Johansson?
Il le sait.
Non, je le sais. C'est que aujourd'hui, les héritiers de Marvel vont pouvoir récupérer Marvel. Parce qu'aux États-Unis, oui.
Les droits.
Les familles des auteurs qui ont créé ces personnages, ouais.
Et c'est un truc terrible pour Disney qui a dépensé. Ah ouais. Plusieurs milliards d'euros de dollars là-dedans et aujourd'hui ils se retrouvent à avoir besoin de discuter avec les héritiers Marvel qui peuvent récupérer leurs droits.
C'est génial.
C'est extra.
Ils vont donc en procès et eux-mêmes de leur côté veulent les attaquer pour cette demande de cessation de droits parce qu'en effet ils pourraient perdre des milliards de dollars.
Mickey qui tombe dans le domaine public aussi.
C'est différent encore parce que ils ont su très bien changer. C'est Walt Disney qui a inventé le merchandising. C'est lui qui l'a inventé. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde pouvait dessiner Mickey. Puis lui, il en a décidé un qu'il a déposé. Et à partir de là, donc c'est ça s'appelle les Pie Dye Mickey. Les Pie Dye Mickey sont des Mickey qu'on a fait avant 1932, quelque chose comme ça. C'est taré. Ils sont très forts. Vous savez qu'un truc, c'est que Mickey et ses amis ont eu leur cinéma fermé, leur croisière fermée, leur parc d'attractions fermé, leur croisière fermée. Et ils ont quand même réussi à gagner de l'argent grâce à leur plateforme et à continuer à grimper en bourse. C'est absolument taré.
Et Scarlett Johansson a changé quand même la donne avec son procès parce que le film est allé sur la plateforme.
Sur la plateforme, bien sûr.
Et finalement, ce sont tous les acteurs qui vont en sortir grandis du courage qu'elle a eu.
J'espère parce que c'est terrible de faire un film pour le cinéma et qui arrive directement en plateforme. Mais en ce moment, on est en train de.
Je crois qu'elle a même touché plus que ce qu'elle a eu comme cachet au cinéma. J'ai eu 20 millions de cachets et 40 millions pour la plateforme.
Mais le vrai problème, c'est que la pandémie a accéléré quelque chose qui sont les plateformes et que tout d'un coup, le cinéma, c'est plus la même chose. On a envie d'aller voir des grands films et puis on va plus voir les mêmes films. Ça va changer énormément de choses. Ce qui est fou, c'est que Disney, les syndicats de cinéma sont en train de renégocier la chronologie des médias, et Disney a dit « Mais moi, je m'en fous, la chronologie, je vous emmerde. On va tout passer sur notre plateforme. »
Et c'est eux qui feront la loi, en fait.
Ça serait ça.
Ouais.
Et ça fout la trouille.
Ce soir, à 20h, sur le canal 14, les masterclass et les résumés de la semaine de Leïla Kadour-Boudadi, et à 22h40, la deuxième demi-finale, avec des auteurs, compositeurs, interprètes qui proposent de nouvelles chansons.
Et hier soir, on était avec Raphaël dans cette masterclass pour parler de prise de risque artistique, d'accident aussi, et d'inspiration.
La musique, on la puise... la musique ou tous les artistes, j'ai l'impression de Picasso, il doit dire la même chose, hein, ou que le territoire artistique, il est balisé dans les 5-6 premières années comme ça, et qu'on passe sa vie à rechercher des visions, des émotions, des couleurs, des choses comme ça qui réapparaissent. Moi, je sens ça dans mon travail, par exemple.
Donc, ça commence tout petit, parce qu'on entend, parce qu'on voit. Et quand on a une panne d'inspiration, Raphaël, lui, il a une petite méthode.
Il y a une phrase de Jack London qui dit « Il ne faut pas attendre que l'inspiration arrive, il faut lui sauter dessus avec un gourdin, quoi. Je suis d'accord avec ça. Après, des fois, si ça ne marche pas, si on sent qu'on est coincé, ça arrive. Il faut, je ne sais pas, dessiner, peindre, passer par une autre forme de... Un truc qui est...
D'expression.
Mais les choses se nourrissent, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que c'est le même état quoi, qu'on recherche.
Et puis, il faut surtout essayer, et même en studio.
On a tous les droits. On peut vraiment foutre du café sur la bande si on veut, si on trouve que ça sonne bien. Il n'y a pas de... Le studio, ce n'est pas un univers stérile, sauf si on veut faire de l'opéra. Et encore, je ne sais pas, les enregistrements de la Callas, ils sont 100 fois plus émouvants que la plupart des chanteurs, et c'est peut-être moins parfait techniquement. Donc je crois que ce qui compte, c'est l'émotion, quoi. On peut vraiment faire un truc sur une cassette et ça peut être 100 fois plus bouleversant que n'importe quel truc.
Et Raphaël a quand même conscience qu'être musicien aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans.
Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'on vous demande non seulement d'être artiste, mais de savoir faire du marketing, de savoir vous vendre, d'être sur les réseaux sociaux, d'être comme des publicitaires, quoi. Alors que moi, à mon époque, c'était encore on aimait Nirvana, quoi, qui était des mecs qui Si, je me rappelle quand j'ai commencé, moi j'aime toujours Nirvana, mais on proposait à des chanteurs, tous les chanteurs que vous recevez aujourd'hui de notre génération, on nous aurait proposé de faire une musique de pub, on aurait dit mais ça va pas, enfin, ouais, jamais de la vie. Ouais. Alors qu'aujourd'hui vraiment les gens ils supplient, ils envoient des lettres, excusez-moi, je pense que avec cette lessive ma chanson serait formidable.
Et puis quand même, on s'est payé le luxe de le faire un peu chanter. Vous préférez quoi, Caravane ou Personne n'a rien vu? Qu'est-ce que vous préférez?
Caravane, il va le faire le jour de la finale.
Alors on va faire Personne n'a rien vu.
Comme ce que tu veux, bah, c'est ton émission.
Ouais.
Tu
fais ce que tu veux. Moi j'ai adoré les deux. Allez, Caravane.
Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble.
Ce soir 20h, un petit résumé de la semaine des masterclass à 20h sur le canal 14 de la TNT. Et puis 22h40 en direct, la deuxième demi-finale de The Artist. Avec comme invité Texas, Elodie Frégé, Claudio Capéo et Benabar, et tout ça avec de la musique et du live. Justement, on parlait de la création et de la liberté d'un auteur, compositeur, interprète pour la musique, mais aussi d'un auteur pour des films, pour des scénars. Il faut rien s'interdire, rien s'empêcher, rien calculer. C'est ça la force de la création.
Ah oui, c'est... Enfin, en tout cas, écrire pour le cinéma, ça reste encore le plus bel endroit où on peut s'exprimer. La télévision est plus normée aujourd'hui, beaucoup, beaucoup plus normée qu'elle ne l'était avant.
Mais il y a toujours des contraintes budgétaires dans les deux domaines,
ouais,
cinéma
mais,
comme télé, non?
Oui, mais ce qui est drôle, c'est d'arriver à dépasser ces contraintes, c'est-à-dire à se mettre dans un état d'esprit où on se dit « j'ai envie de faire mon film comme je veux le faire, je vais m'adapter ».
Oui, mais la création oblige au risque, et le risque ne va pas avec l'économie.
Dans mon livre, je raconte un truc, il y avait un type que j'aimais beaucoup, malheureusement il n'est plus là, qui s'appelait Richard Peset, qui était le patron d'AMLF, et qui était la boîte de distribution qui marchait le mieux à l'époque. Je vais le voir, je prends rendez-vous avec lui, je dis voilà, je voudrais écrire un film, c'est une histoire d'amour commentée par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Il me dit, ah, c'est pas mal ça, combien tu veux? Je dis, écoute, je veux pas d'argent, mais je voudrais aller écrire à Los Angeles avec mon pote Michel, à Zanavicius.
Pendant
il me dit,
trois
bah,
mois,
ouais. Et pendant trois mois. Il me dit, bah, ok, on n'a pas fait de contrat. On y est allé, voilà.
Ça n'arriverait plus aujourd'hui.
C'est fini. Je le dis dans le bouquin.
Et ça donnait Delphine 1, Yvon 0.
C'est ça. Mais je le dis dans mon bouquin. Je m'engueulais avec un énarque patron d'un studio et qui me disait ton film est pas drôle. Je lui ai dit t'as fait les nages, j'ai fait les nuls. Je sais ce qui est drôle.
Voilà. Chacun sa place.
Ça vous l'avez eu sur le moment parce que c'est le truc on se dit putain si je l'avais.
Elle est belle.
Non, celle-là je l'ai eu. Je l'ai eu direct.
Punchline.
Ouais. Et j'étais bon. On est fâché depuis. Hein. Mais
étonnant. Mais pour une bonne vanne.
Mais pour une bonne vanne, on vous fait ça bien.
Elle ne m'a jamais quitté. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour les Fiat Panda, la ville de Fontainebleau, tout ce qui était méprisé, insulté, humilié par Dominique Farrugia, notre invité. C'est moche, mais c'est rien par rapport à ce qui a été dit en off sur les Xantia et sur la ville de Noisy-le-Sec. Là, c'était sale, c'était hyper sale. Désolé pour tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent l'émission et qui se sont dit « Waouh, et si on faisait une fête, genre fête canal de l'époque des Nuls ?» Eh ben non, vous avez entendu Dominique Farrugia et Nagui, ça c'était avant. Alors maintenant, si vous voulez assister à une grosse fiesta limite orgie, un truc genre fin du monde de l'hygiène et de la vertu. Je vous conseille les fêtes France Info. C'est 3-4 fois par semaine, vous avez le choix. Je vous garantis, c'est Armageddon. Non, une fête France Inter, oubliez. Hein. Quand tu parles d'une fête France Inter, c'est terrible, mais t'as encore soif. Désolé pour tous nos auditeurs trop sensibles qui ont été bouleversés par le témoignage ce matin de Dominique Farrugia. Je comprends. Et d'ailleurs, on revient lundi à la grosse déconne, à nos fondamentaux, avec Bérénice Bégeau et François Cluzet pour parler cave et révisionnisme. Nom de Dieu, ça va être bon.
Merci en tout cas de nous avoir éduqué dans le rire et dans la vanne depuis tant d'années aussi, Dominique, parce qu'il faut pas oublier que on a tous ici autour de cette table forcément une connexion avec les nuls et forcément quelque chose qui nous a fait avancer ou qui nous a autorisé à des vannes ou qui fait que on se retrouve entre nous comme ça les uns et les autres. Et je pense qu'il y a des millions de gens qui sont concernés par la même vanne des nuls où on se reconnaît. Peut-être pas les Régis qui ont beaucoup souffert, mais les autres,
c'est mérité.
Mais les autres quand même se retrouvent.
Ils ont cherché du whisky.
Et si c'est ça. Et si le fameux doigt, ouais. Et si on parle de l'avenir, Dominique Farrugia, en fiction, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous vous préparez?
Alors, je coproduis pour M6 une série 4x52 minutes qui va se tourner la semaine prochaine, qui s'appelle L'homme de nos vies, voilà, avec un magnifique casting où Élodie Frégé va jouer pour la première fois,
super,
je crois,
super.
Et voilà, Harry Habitant qui joue un méchant. Je suis très très heureux de ça, et puis on développe, c'est un nouveau métier pour moi, voilà, je réapprends l'humilité.
Shine Production, film, c'est ça.
Shine Fiction, mais voilà. Non, j'avais un truc à raconter sur les fêtes de Canal, et un truc que De Greff m'avait dit, malheureusement, on était à un enterrement. Et on sort devant le crématorium et De Greff, avec son air désabusé, me dit, tu vois, ça va être ça maintenant, les fêtes Canal.
Merci de finir sur cette vanne.
Et bon week-end. Elle
me tient à cœur.
Elle
est tellement belle.
Mais non, mais ça explique bien l'état d'esprit, en tout cas des vannes qui pouvaient circuler à Canal. Bérénice Bégeau, tiens, on parlait beaucoup de Michel tout à l'heure. Bah, Bérénice sera notre invitée.
Vous l'embrassez pour moi.
Avec volontiers. Avec François Cluzet, ça sera lundi. Passez un bon week-end et à ce soir 22h40 en direct sur France 2.
Bon week-end.
Pour The Artist. C'était quand même ton bague, super.